Vous pouvez nous présenter votre invité.
Bonjour, vous venez d'entendre Azouz Begag, voilà. Ancien ministre à l'égalité des chances. Vincent, bonjour à tous. Excusez-moi, il est connu pour son franc-parler. Il nous explique ce qui se passe dans la tête d'un ministre quand il prépare ses cartons et doit se racheter une carte orange. Bref, on va parler remaniement.
Oui, apparemment, c'est dans l'air. Il est 8h15 et donc ce matin sur RTL, Yves Calvi, vous recevez un ancien ministre, Azouz Begag.
Bonjour Azouz Begag.
Bonjour Yves Calvi.
Merci d'être avec nous ce matin pour parler déménagement. Il n'y avait pas beaucoup d'anciens ministres de la République avec qui discuter de ce qui se passe dans leur tête à quelques jours d'un remaniement. Je rappelle que vous avez été le ministre de l'égalité des chances du président Chirac dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Sincèrement, est-ce que vous le comprenez, vous, le blues du ministre ?
À la fin de la mission. Ah oui, bien sûr, parce que tout d'un coup, hein, c'est un mur qui s'effondre, c'est un confort matériel qui s'en va, c'est une reconnaissance sociale qui disparaît, et c'est une immense solitude qui tout d'un coup s'abat sur vous, un matin ou l'après-midi. Et moi, je me souviens très bien, parce que le dernier jour, j'ai démissionné, Yves Calvi, vous savez, on ne m'a pas viré, je suis parti pour dénoncer une politique que je n'aimais pas. Et je me suis retrouvé dans le train, dans le TGV, rentrant chez moi à Lyon avec ma petite valise, et j'avais un abonnement gratuit, comme tous les ministres, et j'avais peur que dans le train, au moment où le contrôleur allait me demander mon billet, qu'il me dise « Mais dis donc, vous là, vous n'êtes plus ministre depuis une heure, vous allez payer la totalité du ticket !» Et puis finalement, il avait entendu dire que j'avais démissionné et il m'a laissé passer avec mon abonnement qui n'était plus valide.
J'aurais des questions à poser au président de la SNCF sur ce passe-droit à un ancien ministre. Ce qui est étonnant dans ce que vous nous dites, c'est que vous dites oui, évidemment qu'on a ce blues post-ministériel.
Oui, c'est dur, hein. C'est pas la peine de mentir. Moi, je me suis menti plusieurs semaines, plusieurs mois, en me disant « Mais oui, mais... » Non, c'est super lourd parce qu'il n'y a plus rien. Heureusement, pendant 2 ans, moi, j'avais gardé un pied dedans et un pied dehors. Un pied dehors, c'est-à-dire tous les week-ends, Yves Calvi, je rentrais chez moi et je chaussais mes baskets trouées pour me souvenir d'où je viens et avec qui je voulais vivre le reste de ma vie. Un ancien ministre m'avait dit « Azouz, quand tu sortiras du gouvernement, n'oublie jamais qu'on n'est plus longtemps ancien ministre » que ministre en exercice. Donc, je n'ai jamais oublié ça.
Quand on voit arriver la voiture de fonction le matin, on est rassuré aussi sur ce que l'on fait, ce que l'on est. La voiture de ministre, avec chauffeur.
On n'est pas rassuré, c'est-à-dire ce confort matériel.
Vous étiez très sourcilleux de ça. C'est-à-dire, non pas attaché à vos signes de pouvoir, mais je sais que vous pensiez qu'il était important, surtout pour vous, avec le poste ministériel qui était le vôtre, et en tant que ministre issu de l'immigration, d'avoir tous les attributs de votre fonction. Vous êtes d'accord pour le dire ?
Je me suis acheté 10 costumes et des chaussures chères pour essayer d'être à la hauteur de la fonction. Oui, parce que c'est une fonction qu'aujourd'hui encore, dans la rue, les gens reconnaissent. Hein. Les gens m'appellent monsieur le ministre. C'est très important pour les gens. C'est pas négligeable, cette reconnaissance des attributs de la République française. Et moi, c'est vrai que je suis en train de vous dire que tous les week-ends, je tenais à rentrer chez moi sans chauffeur, sans agent de sécurité et sans voiture pour rechausser ma vie normale. C'est exactement le contraire de ce que vous venez de dire.
Donc ça veut dire qu'en ce moment... les ministres qui vont peut-être être virés du gouvernement, il se passe des coups de fil entre eux.
J'ai l'impression que c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi, parce que tout le monde, je crois, attend finalement un retournement de situation. Chacun et chacune doit se dire, peut-être que moi, vu que j'ai parlé à un tel et un tel, je ne serai pas viré.
Alors le blues du ministre, ça peut être aussi le blues de son bilan. Qu'est-ce que vous pensez du bilan de Fadela Amara ?
Yves Calvi, il faut demander aux jeunes des banlieues pour qui elle œuvrait. Je crois malheureusement aujourd'hui que la notoriété à la fois de l'action du gouvernement, du chef du gouvernement et du président de la République n'est pas encore à son fait dans les banlieues, si je puis dire, c'est un euphémisme. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît que Fadela Amara, cautionnant plus ou moins, mais plutôt plus que moins, la politique du gouvernement, elle n'est pas légitime dans les quartiers où elle devait œuvrer. De surcroît, elle travaille dans un gouvernement où le ministre de l'Intérieur est condamné par la justice de France pour un crime qui est celui d'injure raciale. Injure raciale, et il est toujours en poste. Comment vous voulez aujourd'hui que des ministres comme ça soient légitimés dans les quartiers d'exclusion? Ils ne le sont pas, plus eux que leur bilan.
Donc vous pensez qu'elle aurait dû démissionner? On ne peut pas coexister avec Brice Hortefeux?
Non, mais surtout, moi depuis le début, Yves Calvi, j'ai dit qu'on ne pouvait pas cautionner l'idéologie du Front National. Et on ne pouvait pas, quand on était républicain, comme l'a fait Nicolas Sarkozy en 2007, aller chercher à tout prix l'électorat du Front National pour gagner une élection présidentielle en République française. Cela ne se fait pas de dire en 2007 que la France n'est pas le pays où l'on égorge les moutons dans les baignoires des appartements. Cela ne se fait pas devant 15 millions de téléspectateurs. Je n'ai pas accepté cela. Je suis parti chez moi, rechausser mes baskets trouées.
Alors, puisqu'on a la chance de vous avoir avec nous, je voudrais vous faire écouter ces excuses prononcées par Florent Pagny sur l'antenne d'RTL. Il était l'invité de Flavie Flamand. C'était mercredi après-midi.
Je tiens à m'excuser si j'ai blessé, si j'ai choqué et offensé des gens. Si j'ai vraiment du racisme en moi, ça n'est que sur les cons. Et les cons, bah, il n'y a pas de race. Ils sont de toutes les races et toutes les couleurs. Ils sont nombreux aussi. On ne maîtrise pas tout. Je suis un homme ordinaire.
Juste un mot de commentaire en une minute. Est-ce que vous trouvez normal qu'on soit dans une société où maintenant on est obligé de s'excuser parce qu'on souhaiterait que ses enfants parlent le français ?
Non, c'est surtout qu'il s'est exprimé...
Vous êtes un écrivain de talent, donc vous, la langue,
non, mais
ça a un sens.
Il a parlé de la langue rebeu. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, moi, la langue rebeu. Je crois que c'était une langue gestuelle, moi, avec les bras. Mais en fait, voilà, c'est absolument inconsistant, ce débat. Il n'y a rien derrière, c'est nul.
L'excès d'excuses, est-ce que ça peut provoquer du racisme ? C'est ça, ma question.
Mais c'est l'effet, c'est la conséquence de la question. Alors que c'est à Florent Pagny lui-même de se demander, comme M. Guerlain... comme Brice Hortefeux, pourquoi on en arrive aujourd'hui à prononcer des sottises pareilles contre des gens à la télévision ou à la radio ? Pourquoi on en est arrivé là ? Est-ce qu'il faut s'arrêter ou est-ce qu'on laisse continuer le droit d'expression tel que le demandent aujourd'hui quelques citoyens français ?
Merci beaucoup Azouz Begag, très bonne journée à vous.
Merci à vous Azouz Begag, les baskets sont toujours trouées ?
Elles sont toujours, ouais.